Proverbes chapitre 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer, pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être juste, de vivre selon le droit et dans la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que le sage écoute et il enrichira son savoir, et l'homme avisé acquerra l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Merci de garder ce texte devant vous. On va aller plus loin tout à l'heure. Dans mon ministère de pasteur, j'ai vu des personnes qui ont beaucoup souffert à cause de leurs choix dans la vie. Je pense à ce couple qui ont eu un enfant. Après, ils ont eu le projet de se marier, malgré des problèmes conséquents dans leur relation, dans leur couple. Le mariage était très extravagant, mais seulement quelques mois après, j'ai eu un coup de fil du mari qui me disait que ça n'allait pas du tout. Et en fait, au moment du mariage, ils ne se parlaient presque plus. Et ils se sont séparés. Ils ont la garde partagée de leur enfant. Et je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas un moyen d'éviter toute cette douleur, toute cette souffrance? Et en réfléchissant, je me suis dit, il y a tant de domaines dans notre vie où notre comportement, nos choix, nos décisions ont des conséquences, positives ou négatives. Il y a le domaine du travail, des études. Il y a les relations au sein de la famille, au sein du couple, les amis. Il y a l'argent, la gestion des biens. Il y a le rapport aux écrans, Internet, les réseaux sociaux, Netflix, etc. Il y a le projet. Et face à ce monde complexe et en évolution constante, souvent on se sent perdu. On aimerait bien avoir des principes pour nous guider, pour nous orienter, pour savoir comment nous comporter, comment prendre de bonnes décisions. Bref, comment bien vivre. Et Dieu, dans sa bonté, ne nous a pas laissés sans repère dans la matière. Il nous a donné dans la Bible les livres de sagesse, Proverbes, Job, Ecclésiaste, qui sont là pour nous instruire comment bien vivre devant lui. Et nous allons suivre le livre des Proverbes sur quelques semaines. Proverbes, c'est ce qu'on pourrait appeler le point de départ, les bases de la sagesse. Et on y trouve des principes qui nous aident à vivre de manière sage dans ce monde. Puisque Dieu a établi, a placé un ordre dans ce monde, non seulement un ordre physique, mais un ordre moral, le monde fonctionne d'une certaine manière. Et à partir de l'expérience, on peut tirer des leçons pour nous guider. Donc les proverbes, on trouve les bases de la sagesse. Le livre de Job apporte des nuances importantes pour éviter d'être trop simpliste dans notre manière d'interpréter le monde et ses événements. Et le livre de l'Ecclésiaste nous montre les limites de la sagesse. Que même avec la plus grande sagesse humaine, on ne peut pas percer au fond de tous les mystères de ce monde parce que Dieu est Dieu et nous sommes les humains et il a voulu que ce soit ainsi. Mais Job et Ecclésiaste prennent comme leur fondement le livre des Proverbes. Et ce livre est d'une grande valeur pour nous. Et ma prière, c'est que, en l'étudiant ensemble, que Dieu utilise ce livre pour développer, continuer son œuvre en nous, pour nous aider à grandir dans cette sagesse qui est si précieuse et si utile pour nous dans notre vie de tous les jours. Cette sagesse, quand on la met en pratique, honore et glorifie le Dieu qui nous a créés et qui a placé ses principes dans le monde. Alors, que voyons-nous au premier chapitre? D'abord, ce qu'on vient d'entendre, une introduction à tout le livre. Une introduction à tout le livre, c'est les versets 1 à 7. Peut-être qu'on peut penser au proverbe, penser à des courts dictons. Alors moi, j'en ai trouvé tout un tas sur Internet. Pierre qui roule,
n'amasse pas de
mousse. Alors j'aime bien ce suivant. Un tien vaut mieux que
deux
tu l'auras. Donc c'est principe de sagesse populaire. Et des proverbes de ce type, il y en a plein à partir du chapitre 10. Mais pour nous préparer, d'abord, on a une introduction. Les 9 premiers chapitres, composés de discours plus fournis sur le thème de la sagesse. Mais tout au début, on a le titre du livre, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, verset 1. Le roi Salomon, il était jeune quand il a commencé à régner. Et Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. Il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné une sagesse hors norme. Il était connu comme l'homme le plus sage. Et ça faisait partie de la gloire de son royaume. Le peuple de Dieu, le point haut, le sommet de la monarchie en Israël. Le livre d'un roi dit que Salomon a composé 3000 proverbes. Et beaucoup de ce livre vient de lui. Quoiqu'il y a des contributions, des apports d'autres personnes, y compris, cela nous étonne, certains qui ne sont même pas israélites. Mais même si ce livre concerne une sagesse qui s'applique à tous les êtres humains, dans toutes les cultures, à toutes les époques, ce livre est ancré dans l'histoire d'Israël et le plan de Dieu, le plan du salut, qui remonte jusqu'à Abraham et qui est accompli en Jésus. Jésus qui se disait lui-même plus grand que Salomon. Donc nous avons le titre, verset 1, et puis une explication du but du livre. Parfois au début d'un livre non-fiction, l'auteur va expliquer le pourquoi du livre, pourquoi j'ai écrit ce livre, à qui ce livre est destiné. Et ici, nous avons quelque chose de semblable. Le but du livre, verset 2, c'est d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer pour qu'ils aient la connaissance et le bon sens. Pourquoi cela est-il nécessaire, verset 3? En vue d'être juste, de vivre selon le droit et dans la droiture. Les êtres humains ne sont pas sages, nous ne sommes pas sages par nature, nous devons apprendre comment vivre correctement. Et ce livre est adapté à tous, que ce soit des débutants, verset 4, ces proverbes donneront aux gens sans expérience, aux gens simples, le bon sens, et aux jeunes, la connaissance et le jugement. Mais même pour ceux qui ont déjà une certaine sagesse, verset 5, que le sage écoute et il enrichira son savoir, et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. En gros, qui que l'on soit, on tirera profit de la lecture de ce livre. Et le livre ne prétend pas être exhaustif, de tout dire, mais son but, c'est d'équiper, nous équiper, à comprendre les paroles des sages. À la fin du verset 2, pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence. Et puis verset 6, ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. Celui qui apprend le livre des proverbes va pouvoir profiter d'autres paroles sages. Et tout au début, l'auteur nous donne la clé de la sagesse. Verset 7. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Par la crainte de l'Éternel. L'Éternel, ou Yahvé, c'est le nom du Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui a délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte, qui a fait une alliance avec eux au mont Sinaï, en disant, moi je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Le Dieu du roi David et du roi Salomon. Et ici, il est dit, si vous voulez être sage, il faut craindre l'Éternel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire avoir peur de lui, comme si Dieu était contre nous. Ça veut dire révérer, respecter ce Dieu dans tout ce qu'il est. Ça veut dire le prendre au sérieux en tant que créateur, maître et juge. Il n'y a personne plus grand que lui, personne qui soit plus fondamental à notre existence que lui. Lui qui mérite toute notre reconnaissance, notre adoration. C'est ça la crainte de l'Éternel. Le reconnaître pour qui il est. Et la recherche de la sagesse ne peut pas réussir sans respect pour ce Dieu qui a tout créé. C'est lui qui est infiniment sage et c'est lui qui donne la sagesse. Mais ayant dit cela, tout de suite nous avons un contraste avec une autre voix, la voix des insensés. La suite du verset 7. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Les insensés détestent la sagesse et l'instruction, les reproches. Ils ne veulent pas se laisser instruire. Et donc, tout au début de ce livre, nous avons une question. Et moi alors? Et moi alors? Est-ce que je veux recevoir l'enseignement et la sagesse qui est contenu dans ce livre? Est-ce que je veux devenir plus sage? Est-ce que je veux progresser dans la sagesse? Est-ce que je pense que je peux apprendre de mes erreurs et les erreurs des autres sans référence à Dieu? Est-ce que je me contente de mon comportement actuel et je n'ai pas envie d'apprendre? Mais avec ces quelques versets, nous savons à quoi s'attendre dans le reste du livre. C'est comme un manuel de la sagesse pour nous instruire dans l'art de vivre devant Dieu. Il y a une idée qui circule dans certains cercles chrétiens que si on connaît Dieu, il suffit de prier et Dieu va déverser sa sagesse, ses pensées, directement dans notre cerveau pour qu'on sache exactement ce qu'il convient de faire dans toute situation. Et dans cette conception, en fait, le chrétien est dispensé de bien réfléchir, de peser le pour et le contre, parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui décide et nous recevons cette décision. Et malheureusement, cette idée, elle est fausse. Et on voit qu'elle est fausse parce que Dieu nous a donné les livres de sagesse dans la Bible. Et si tout ce qu'il convenait de faire, c'était de brancher notre cerveau à celui de Dieu et télécharger sa sagesse, alors les livres de sagesse, n'aurait aucune utilité. Mais la manière dont Dieu nous communique sa sagesse, c'est par les Écritures. Et cela demande un effort de notre part pour lire, comprendre et appliquer ce que nous apprenons à des situations diverses de notre vie. Dieu nous a donné un esprit d'intelligence et il veut qu'on l'utilise. Ça fait partie de notre dignité d'être humain. Et donc il n'y a pas de raccourci à la sagesse. Donc ça, ce qu'on voit dans la première partie, le but du livre, nous instruire dans la sagesse et la crainte de l'Éternel comme la clé, le commencement de la sagesse. On va lire la suite à partir du verset 8. Proverbe 1, verset 8. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent « Viens avec nous !» Dressons une embuscade pour tuer quelqu'un. Tendons sans raison un piège à l'innocent. Nous l'engloutirons tout vif comme le séjour des morts. Il disparaîtra tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas de biens précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu en auras ta part avec nous. Nous ferons tous bourse commune. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car ils se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent. En vérité, c'est au péril de leur propre vie que ces gens-là dressent des embûches. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent des pièges. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. Un premier discours, c'est un maître de sagesse qui parle à son apprenti. Et l'idée, c'est de dire non au projet pour s'enrichir de manière malhonnête. Le discours commence positivement en recommandant l'enseignement qu'un jeune reçoit de son père et de sa mère. C'est décrit de façon poétique, comme une belle couronne pour la tête, comme des colliers à ton cou. Alors je me demande si je demandais aux enfants qui sont parmi nous comment ils décriraient l'enseignement qu'ils reçoivent de leurs parents.
Non.
Ah oui, bien sûr, c'est comme des bijoux précieux.
Ah
oui, qu'est-ce que j'aime
ouais,
ça. Qu'est-ce que j'écoute avec attention les paroles de papa et de maman.
Déjà, c'est
peut-être pas. Mais peut-être pour nous qui sommes plus âgés, quand on fait le bilan de ce qu'on a reçu de nos parents, peut-être c'est mitigé. Peut-être qu'il y avait des conseils utiles. Peut-être qu'on se dit, ouais, trop de critiques, pas assez d'encouragement. Alors, tous les parents sont loin d'être parfaits, mais ce verset parle d'un idéal où les parents cherchent à donner une sagesse précieuse à leurs enfants, comme des ornements très beaux. Et les enfants reconnaissent la valeur de cet enseignement. Pour la suite, le reste du discours, c'est un avertissement contre une sorte de tentation. C'est le maître qui dit à ce jeune homme, bah, il y aura des gens mauvais qui vont chercher à te recruter dans leur gang. Ah oui, bah, on sait qu'il y a des gens très riches qui vont passer par là. Bah, on va les sauter dessus, on va les tuer et puis on va partager leur richesse. Ce serait trop facile. Pense à tout ce que tu pourrais acheter avec cet argent. Alors, t'es partant. Le maître dit, verset 15, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Ne discute même pas avec eux. Ne prends pas le même chemin que eux, ils prennent. Évitez-les. Éloigne-toi de ce type de personnes. Et la raison est simple. Ce qu'ils planifient, ça va rebondir contre eux. En fait, c'est leur vie qui est en péril, dit le verset 18. Le piège qu'ils tendent, c'est eux qui seront pris dedans. Et donc, les gains malhonnêtes prennent la vie de ceux qui les possèdent. Fin du verset 19. Alors, je ne sais pas, honnêtement, comment vous réagissez à ce scénario qui est décrit dans ces versets. Peut-être que vous dites, bah, Jonathan, merci pour l'avertissement. Je crois qu'il y a peu de chances que je me laisse embarquer dans ce type de projet, franchement. Ça, j'ai pas beaucoup ce genre de sollicitations dans mon travail ou quand je me balade dans la rue. Et c'est sûr que nous devons tenir compte du fait que, voilà, il y a 2500 ans d'histoire qui nous séparent. C'est dans une autre culture, les tentations pour un jeune homme étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Et peut-être que si on avait écrit le livre des Proverbes aujourd'hui, le maître dirait, mon fils, si tu habites dans une cité, en banlieue, et si à l'âge de 13 ans, on te propose 80 euros par jour pour être guetteur, ne le fais pas. Ou bien si à la fin de tes études, une entreprise qui est connue pour être moralement douteux te propose un très bon salaire, ne va pas à l'entretien. Ou bien si au bureau, tes collègues te disent qu'il y a une manière facile de tricher sur le remboursement des frais pour avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, bah, dis-leur que tu ne veux pas savoir. Quel est le principe? Si l'avertissement est nécessaire, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des malfaiteurs. Ils viendront toquer à ta porte avec des paroles faciles, avec une description alléchante de ce que tu pourrais avoir si tu fais partie de l'aventure. Et la voie de la facilité, c'est de dire « oui, d'accord » et d'aller avec eux. Et ça demande un effort pour résister, pour dire, en fait, je sais à quoi ça va aboutir, et de m'éloigner. C'est un exemple de la sagesse, résister à la tentation d'un gain malhonnête. Et donc, on peut se demander comment ce principe s'applique dans ma vie. De quelle manière pourrais-je être tenté de me joigne à ceux qui font le mal par intérêt personnel? Et comment pourrais-je me protéger contre cette tentation? On va lire la troisième et dernière partie du chapitre à partir du verset 20. La sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles, disant « Gens sans expérience, jusqu'à quand vous complairez-vous dans votre inexpérience? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils et vous n'avez pas voulu mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. en épouvante, comme une tempête viendra sur vous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan, et que la détresse et l'angoisse vous assailleront. Alors, ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas, puisqu'ils ont détesté la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils, qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements. Eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite et ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus qu'assez de leur propre projet. Car la présomption des gens inexpérimentés causera leur mort, et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille, sans avoir à redouter le malheur. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Un deuxième discours. Et on pourrait être surpris par qui parle et par ce qu'elle dit. C'est les versets donc 20 à la fin du chapitre. Et ce n'est pas un maître de sagesse qui parle, c'est la sagesse elle-même. Mais comment c'est possible? Alors,
si j'arrive à projeter cette image...
Alors, c'est qui?
Marianne.
C'est Marianne. C'est Marianne. Et qu'est-ce qu'elle représente? Marianne? Elle représente la France. Elle représente la République. On sait que la France, c'est un pays. Voilà, un territoire avec des millions d'habitants. Mais on représente, parfois dans les bandes dessinées politiques, la France par une femme, par une fille, Marianne. Et donc, si dans une bande dessinée politique, on a une Marianne qui est très joyeuse, c'est que ça va bien pour la France. Si, par contre, on a Marianne qui est malade, qui est souffrante, on se dit, voilà, c'est une image de la France qui va mal. Donc, on comprend cette idée qu'on pourrait représenter la France de façon imagée par une femme, par Marianne. Et ici, l'auteur, il représente la sagesse comme une femme. La sagesse, c'est une idée abstraite. C'est une qualité, c'est un attribut de quelqu'un. Donc, pour saisir notre attention, l'auteur fait de la sagesse une personne, une femme. À l'école, les filles ont fait ce qu'on appelle les portraits chinois. Si vous étiez un animal, vous serez quoi? Si vous étiez à une histoire, vous serez quoi? Si vous étiez un film, vous serez quoi? Si la sagesse était une femme, elle serait comment? Et là, on la voit. D'abord, elle crie sur la place publique, là où tout le monde peut la voir, verset 20. Elle n'est pas cachée, elle ne chuchote pas, elle est très visible et elle crie, elle lève la voix. Qu'est-ce qu'elle dit? Verset 22. « Gens sans expérience, jusqu'à quand vous complairez-vous dans votre inexpérience? Jusqu'à quand ceux qui manquent la sagesse se contenteront-ils de leur état et détesteront-ils l'intelligence ?» On voit qu'elle ne mâche pas ses mots. Puis il y a une promesse, verset 23, « Si vous m'écoutez, si vous changez d'attitude, alors je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. » Elle veut que les insensés se tournent vers elle, qu'ils se laissent instruire, et elle est prête à les éduquer. Mais malheureusement, le reste de son discours indique que les gens n'ont pas écouté son appel. Verset 24. J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Et qu'est-ce qu'elle fera? Quand tout tournera mal pour ces gens, quand ils sont saisis de détresse, de terreur, d'épouvante, verset 27, elle va rire. Elle va se moquer d'eux. Et même si ces personnes la cherchent, même si ces personnes font appel à elle, ils ne vont pas la trouver. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ce portrait de la sagesse déconcertant. On se dit, mais si la sagesse était une femme, moi j'aimerais qu'elle soit douce, qu'elle soit gentille, qu'elle soit prête à pardonner les gens, même s'ils n'ont pas écouté. Qu'elle se dise, tiens, revenez, c'est pas grave. Ouais, ça y est, on peut trouver une solution. Alors pourquoi elle semble si dure? Pourquoi elle semble si dure? En fait, si on regarde ces paroles, on voit quelque chose d'étonnant. C'est que la sagesse, elle dit ce que Dieu dit ailleurs dans la Bible. Par exemple, elle dit, « Je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » C'est une promesse que Dieu fait plus tard dans le livre du prophète Ézéchiel. « Je répandrai sur vous mon esprit. » Et quand elle dit qu'elle va se moquer de ceux qui ont rejeté ses conseils, elle reprend les mêmes images que Dieu a utilisées. Quand le peuple d'Israël a volontairement désobéi à Dieu, et puis ils sont revenus en disant, en pleurant, il y avait un moment donné où, peut-être que vous connaissez l'histoire, ils sont arrivés au bord après la traversée du désert, à la frontière du pays promis. Ils ont envoyé des espions. Le rapport, c'est oui, c'est un beau pays, mais les gens sont énormes. Et le peuple a dit, bah, dans ce cas-là, on repart. Tiens, on va rentrer en Égypte, en fait, ce serait mieux. C'est terrible. Si on prend les promesses de Dieu, on les jette à la figure. Non, on ne veut pas aller finalement, en Canaan. Et Dieu dit, bah, en conséquence, vous allez tourner dans le désert jusqu'à ce que toute cette génération soit morte. Et puis c'est la prochaine génération qui entre. Que fait le peuple? Ah oui, d'accord, on a compris. Finalement, on va entrer dans le pays, on va les attaquer. Et Dieu dit, n'y allez pas. N'y allez pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés. Ils se sont fait taper dessus. Ils sont revenus en pleurant, en disant, ah Dieu, nous avons désobéi. Puisque la sagesse, elle dit des choses que Dieu lui-même dit. Rejeter la sagesse, c'est rejeter Dieu, c'est quelque chose de sérieux, de grave. Parce que rejeter Dieu, c'est nous couper de la grâce et du pardon. Ce n'est pas que la sagesse soit méchante, qu'elle prenne plaisir à voir les gens souffrir. C'est que les gens se détournent d'elle, se détournent de la vie et de la grâce. Mais le chapitre se termine quand même sur une note positive, verset 33, le contraire. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur. Il ne faut pas faire d'erreur à ce verset ce qu'il ne dit pas. Ce n'est pas une promesse que ceux qui écoutent la sagesse de Dieu, rien de mal ne leur arrivera. Peut-être de manière ultime, cela est vrai. Beaucoup de choses peuvent arriver dans la vie de quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Mais la différence, c'est que en prenant Dieu au sérieux, on peut recevoir une sécurité qui dépasse tout ce qu'on peut connaître dans cette vie. Le fait de ne pas craindre le jugement, mais de savoir que nous sommes en Dieu, en lui, c'est de cela que parle la sagesse. Celui qui m'écoute habitera en sécurité. Qu'est-ce qu'on a vu ? Une introduction à tout le livre, le discours d'un maître de sagesse qui mise en garde contre une forme de tentation, et la sagesse elle-même qui appelle. Et nous, comment peut-on chercher la sagesse ? Nous avons les paroles de ce livre que nous avons étudié, que Dieu nous a donné. Mais il ne faut pas qu'on le lise tout tremblant, en se disant si je me trompe, Dieu est prêt à me frapper d'un jugement. Parce que nous savons que le même Dieu qui a inspiré ce livre, qui a inspiré cette sagesse, c'est celui qui, parce qu'il nous aime, a donné son Fils, Jésus. Payer le prix pour toutes nos fautes, pour tout le manquement de sagesse, pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté ce que Dieu a dit et nous avons cherché à faire les choses à notre manière. Pour tout cela, Jésus est devenu notre sacrifice, notre sagesse. Et ceux qui ont reçu Jésus ont reçu son esprit, l'esprit de sagesse qui nous aide à comprendre de plus en plus ce que c'est vivre une vie sage. Et donc, j'ai hâte de voir ce que nous allons apprendre ensemble et quels fruits cela portera dans notre vie. Prions. Père, nous sommes reconnaissants que dans ta bonté, tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Et que ce livre fait partie de cela. Merci Père, car en Jésus, nous avons reçu l'esprit de sagesse qui nous aidera à comprendre les paroles de ce livre, qui nous aidera à grandir en sagesse et en intelligence. Et Père, nous te demandons pardon, parce que trop souvent nous nous sommes détournés de toi, en imaginant que nous avons une meilleure solution, que par notre intelligence, nous pouvons nous débrouiller, pouvons réussir sans référence à toi. Et Père, nous te demandons de nous guider sur le chemin de te craindre de la bonne manière, te révérer, te respecter, en tenant compte de tout ce que tu es, et en sachant que fondamentalement tu es pour nous, tu es bon, et tu veux notre bien-être ultime, non seulement dans cette vie, mais surtout pour la vie éternelle. Sois avec nous, Père. Et rends-nous sages. Nous te prions au nom de ton Fils. Amen.